La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Options Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
15h41. Merci à beaucoup d'auditeurs donc, qui réagissent à l'arrivée de Nathalie Normandeau. Mais on vous l'avait dit la semaine dernière. Il y en a qui nous ont dit « Qu'est-ce qui arrive avec Marc Boilard? » Si personne n'avait posé la question, ben là, on aurait mis faire la chronique. Ça...
C'est vrai, pareil.
Non, mais il y en a eu beaucoup. Hey, on vous l'a annoncé dès le départ que Marc restait avec nous, bien évidemment, mais que ça allait être juste un petit peu plus tard. Donc,
après Nathalie. Nouvelle heure, même bon goût.
Ah, c'est ça le slogan.
Excellent. C'est exactement le slogan.
Excellent. Alors, je disais après Nathalie, mais ça se peut aussi qu'ils se croisent de façon
virtuelle. Ah, ça serait le fun.
Peut-être que Nathalie, à un moment donné, Marc va rajouter un petit mot de ça. Alors, bref, petit changement juste au niveau de l'horaire. Ça va être aux alentours de, là, on a fait Nathalie plus tard un peu, etc. Mais ça va être aux alentours de 15h15, 15h20 pour Marc Boilard à compter de lundi. Tu veux me parler, tu veux revenir un peu sur la cérémonie d'assermentation de Joe Biden avec un moment très émouvant avec la jeune fille poétesse.
Amanda Gorman. Mais tout d'abord, moi-même, oui. Je veux dire bienvenue dans l'équipe à Nathalie.
Oui.
Ça me rajoute du travail, par contre, parce qu'il va falloir que je trouve un surnom. Ça fait que je suis pas arrivé encore.
Ben,
non, ça va être c'est de quoi sur quoi je vais plancher.
La semaine prochaine, je te donne jusqu'à lundi pour ça.
Oui, quelques suggestions. Amanda Gorman, hier, j'ai beaucoup de choses. Ça m'a interpellé énormément, Sylvain, pour un paquet de raisons. C'est ça que je vais vous parler. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est-à-dire ceux qui étaient, je sais pas dans quelle grotte, mais règle générale, hier, soit aux nouvelles, soit live, beaucoup de monde ont vu l'assermentation de Joe Biden comme 46e président des États-Unis.
Ouais.
Amanda Gorman, c'est cette jeune de 22 ans, descendante, elle dit elle-même, on lit ça dans un article du Journal de Québec, descendante d'esclaves, littéralement, une noire, qui a été élevée par sa mère monoparentale, donc qui représente beaucoup ce qu'on a un peu oublié depuis les années turbulentes passées, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est vraiment ce qu'on appelait « the land of opportunity ». C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens, c'est quoi ton profil, tu peux toujours faire en sorte que quelque chose de bien va t'arriver. Preuve en est qu'une fille qui est reconnue, parce qu'elle était déjà dans ce milieu-là de la poésie, si on veut,
ouais.
Elle a des vraies études universitaires, etc., mais en parallèle, elle gagnait des concours. C'est le même qu'elle a été trouvée, d'ailleurs. Et tu vois que tout à coup, quelqu'un avec un passé plutôt difficile, tu sais, qui vient pas avec la cuillère dorée dans la bouche,
non.
Se ramasse à l'investiture.
C'est le rêve américain, c'est ça?
C'est extraordinaire.
Alors, c'est pas, voilà. Les Américains, eux autres, ont pas la même conception. L'égalité pour eux autres, dans le sens que tout le monde gagne le même salaire un peu, ou etc., comme le communisme, ils ne veulent rien savoir de ça. Mais les Américains tiennent à ce qu'ils appellent l'égalité des chances.
C'est ça.
Qu'importe qui tu es, d'où tu viens, c'est supposé être ça, là, en passant. Sur le papier, sur le terrain, c'est pas toujours de même.
Mais c'est la promesse.
Ouais, c'est ça la promesse de l'Amérique, normalement.
Fait que là, hier, on l'a vu en action. J'ai trouvé ça fort agréable, très, très, très intéressant.
Allez, on peut-tu écouter un extrait, si tu permets,
absolument,
Marc? Parce qu'il y en a peut-être qui l'ont raté. Jean-Simon, t'as un...
Oui, on a un extrait absolument à écouter d'Amanda Gorman.
On va écouter ça.
We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one. And yes, we are... far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
Jean-Simon, si on traduit un peu.
Oui, grosso modo, elle dit, on était à une époque où est-ce qu'une jeune femme noire qui est descendante d'esclaves élevée par une mère monoparentale peut aspirer à devenir présidente et réciter devant un nouveau président. On ne vise pas une union parfaite, mais on vise une union avec un objectif commun. Puis, grosso modo, c'est ça le sens de l'extrait qu'on a écouté.
Marc.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que hier, on avait un spectacle haut en couleur avec une série de vedettes, principalement féminines d'ailleurs, donc c'était assez original. Lady Gaga, je veux dire, t'avais vraiment, tu sais, plein de grandes vedettes, J-Lo, blablabla.
Katy Perry.
Et t'as une inconnue, qui est elle, qui s'appelle Amanda Gorman. Et moi, je veux souligner un truc là-dessus, ça m'a interpellé à mort. C'est qu'habituellement, dans la vie, qu'on se soit dans le monde du travail ou que ce soit dans le monde du showbiz, on en a que pour le CV, c'est-à-dire le meilleur CV gang, ou on en a pour la notoriété. C'est-à-dire c'est plus connu qu'on va mettre de l'avant parce que tout le monde est content, va applaudir, voici Lady Gaga, etc. Et hier, tout à coup, il y a quelqu'un, en l'occurrence, Kamala Harris, selon l'article, si je me trompe pas, qui a dit, hey, moi, j'ai vu cette fille-là, ça fitrait au bout, ça envoie exactement le signal qu'on veut envoyer. Puis, pourquoi pas, elle n'est pas connue, elle était magnifique, d'ailleurs, elle avait l'air d'une petite Jackie Kennedy, comme habillée un peu années 50, mais version 2021, c'était hot. Puis, ça m'a rappelé plein d'anecdotes que je vais vous raconter sur la possibilité, à un moment donné, on ne sait jamais quand est-ce que la bonne nouvelle peut arriver, OK? À un moment donné, ma cousine Catherine, qui vit à Stoneham, Catherine Leclerc, ça fait très longtemps de ça. Je te parle, là, j'étais autour de 30 ans. J'étais gérant d'artiste, je commençais. Elle me dit, hey Marc, elle dit, il faudrait que tu rencontres un de mes amis. C'est pas mon grand chum, mais c'est quelqu'un, il est très bon. Puis là, pendant les parties, il fait des imitations, il est malade, c'est incroyable, il est vraiment bon. Il fait plein d'imitations. Puis tu sais, moi, c'est comme, tu te fais tout le temps dire ça quand tu travailles dans le milieu.
Ah, je connais quelqu'un qui est bon,
ah, lui, oui, il est drôle, drôle, là, il faudrait qu'il soit humoriste. Ouais, bon, en tout cas, là, hein. C'était Marc Dupré.
Hein? Ben ouais,
c'était Marc Dupré qui faisait des imitations tout seul avec ses amis, etc. Je t'en compte un autre. À un moment donné, René Angélil, qui était propriétaire du Mirage, donc je pense qu'il l'est encore, donc le club de golf à Terrebonne, voilà. Et quand t'es propriétaire du Mirage, Sylvain, t'es pas au courant, tu te lèves pas le matin en disant « Bon, c'est qui c'est aujourd'hui qui a loué la salle pour faire un souper puis son tournoi de golf? » Tu sais, je veux dire, t'as des clients, c'est pas toi qui s'en occupe, il y a un directeur général, quelqu'un de l'accueil, puis t'es le propriétaire. Ça donne qu'un soir... Ben, René Angélil joue au golf dans son terrain de golf et il s'en va souper dans la salle où il y a un événement d'organisé. Ça fait que il est en arrière, mais tu sais, il a toujours bien le droit de souper chez eux, entre guillemets. Oui. Et tout à coup, il y a un jeune artiste qui fait la première partie d'un autre artiste qui avait été engagé par la gang qui faisait le party, leur congrès. Ouais. Exactement. Et qui est très bon. Puis il s'en va le voir puis il dit, écoute, il dit, toi, je te connais pas, je t'ai jamais vu. D'ailleurs, c'est un pur inconnu. Mais il dit, j'aurais besoin de toi, vraie histoire là, que je te conte là. J'aurais besoin de toi pour faire la première partie de Céline dans une semaine au Forum. C'est pas une farce. Un pur inconnu, il a fait la première partie de Céline au Forum. Donc, c'était pas le Centre Bell, c'était dans le temps des Canadiens au Forum, tu te souviens. Ouais. Mais Céline était déjà assez big pour remplir le Forum. Et il offre ça une semaine après. Le jeune homme en question, sa job à temps plein, c'était pompiste chez Sergaz. Une semaine plus tard, après qu'il mettait du gaz dans les voitures, dans un serre-gaz à Terrebonne, il chantait pour Céline Dion en première partie au Forum, acclamé, sa carrière était démarrée parce que René Angélil l'a signé. C'était la première fois que René, dans sa compagnie qui s'appelait Production Feeling, signait un autre artiste que Céline Dion. Il a donné le mandat juste pour rire de faire la production, puis il a brûlé le marché dès sa première tournée, entre autres au Capitole, où il a joué des dizaines de fois. Qui est-il? Marc Dupré.
Alors, ça veut dire que des fois, mais j'essaie de faire un peu le lien avec ce que tu nous contais avec...
La fille d'hier, là, est-ce qu'on a attendu qu'elle soit populaire pour la reconnaître? On a juste dit, elle a du talent. C'est ça, être un expert. Ouais. Elle a du talent. C'est plein de monde dans la vie, Sylvain, qu'on croise, qui ont plein de talent, puis je vais te faire un autre lien avec ça, qui ont plein de talent, puis qu'à quelque part, dans la mesure où ils l'ont pas encore démontré, on les tasse.
Mais ça prend du timing. Oh, ça, c'est pas grave. Moi, je pense que ça prend... Il y en a qui vont dire, ben ça prend un peu de chance, ça prend du timing, ça
Absolument.
Prend...
Absolument. Mais là, mais je parle pas que eux autres, ils ont-tu été chanceux ou pas. Je parle à toutes nous autres qu'on croise plein de monde dans la vie qui ont du talent, mais parce qu'ils sont pas encore en haut de la montagne, on les discarte ou autre. Je veux te faire un parallèle avec une discussion que j'ai eue hier soir, OK? Hier soir, j'étais avec deux humoristes de Québec, Faf puis Jean-François Otis, puis on faisait un podcast sur Twitch, ça, c'est comme un genre de YouTube. Puis on jase, etc. Et là, à un moment donné, Faf, il dit, on parlait de quel genre d'ado on était, puis tu sais, toutes sortes de propos. Et à un moment donné, Faf, il dit, moi, mon père, puis j'ai entendu ça tellement, c'est pour ça que je fais le lien. Il dit, moi, mon père, là, il m'a brainwashé à une seule affaire par rapport à mon choix de carrière, c'est avoir un fonds de pension. Il dit, c'est la seule affaire que je me suis fait dire. Je me suis pas fait dire, fais quelque chose que t'aimes, ou c'est fais ton fonds de pension. Il dit, l'important, c'est un fonds de pension. Comprends-tu? Mais quand t'élèves quelqu'un, puis tu y drilles dans la tête que l'idée, puis ce qu'il faut, c'est un fonds de pension, puis c'est un fonds de pension, il arrive deux affaires. Soit A, il se résigne toute sa vie à faire 30 ans qu'il va trouver le temps long pour espérer à 65 ans faire le tour du monde en pack-sac, ce qui arrivera pas. Ou... non, mais je suis désolé, mais c'est ça ou c'est pas ça?
Je sais, tu nous as déjà parlé de ton ami qui travaille dans le domaine des retraites puis qui dit que c'est quoi le pourcentage de gens qui réalisent leur rêve à la retraite?
Zéro. il avait dit, en 30 ans de carrière, le nombre de personnes qui m'ont dit, moi, je me prive actuellement, mais watch-moi bien à ma retraite, on va faire ça, puis ça, ouais, puis qu'il l'a fait. Il dit, le chiffre, c'est zéro. C'est fait que je suis juste en train de te faire un lien entre ce qu'on met en tête des jeunes, que ce soit nos enfants ou des jeunes qu'on croise ou autres, à qui on injecte une petite dose d'inquiétude, une petite dose que c'est pas fait pour toi, cette job-là.
On rabaisse un peu. Puis
exact.
Ouais, exactement.
Puis que t'en as d'autres qui réussissent à dire, hein, lui, il est pas connu, il va faire la première partie de Céline Dion.
Ce que tu viens de faire là depuis tantôt, là, je sais pas si t'es au courant, je sais que t'aimes le cinéma, c'est un film. Et ça s'appelle Jean-Philippe. Avec Fabrice Luchini. Est-ce que tu connais? Je vous résume.
Non.
Tu vas capoter. C'est à peu près tout ce que tu viens de nous dire. Fabrice Luchini, vous le connaissez. Au Québec, je sais pas s'il est super connu, mais en France, c'est une méga star. Mais bref, là-dedans, il joue un rôle. Mais c'est un film. Il joue avec Johnny Hallyday à l'époque où il était encore en vie. Alors, c'est un peu fucké, mais je vous raconte. Luchini, là-dedans, c'est un collectionneur, un admirateur de Johnny Hallyday, mais il est malade, OK? Il collectionne les disques, tout, etc. Okay. Un soir, il mange un coup de poing sur la gueule, puis il tombe à terre, puis il se cogne la tête. Et là, il se lève dans un univers dystopique, c'est ça le mot?
Oui. Ben,
autrement dit, un univers parallèle. Il est plus dans le même monde. Okay? Okay. Il vit dans la même maison, il a encore la même femme, la même fille, mais dans ce nouveau monde-là, Johnny Hallyday n'existe pas. Parce que, tu sais, il sera à une boutique, un disquaire, puis il dit, ouais, j'aimerais le nouvel album de Johnny Hallyday. De qui tu parles?
Il n'existe pas.
De qui? Là, il fait comme, hey, on le plus grand artiste de France. Je sais pas c'est qui. Il y a un autre gars qui est populaire, parce qu'il y a, qu'il y a un autre nom, mais Johnny Hallyday n'existe pas. Mais là, lui, il capote, c'est son idole. Fait qu'il devient burn-out, dépressif, il n'y a plus d'Hallyday. Mais là, il se dit, attends un peu. Il se souvient du vrai nom de Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Schmitt. Fait que là, il dit, peut-être qu'il n'y a pas de Johnny Hallyday dans cette nouvelle France dans laquelle je me suis réveillé. Mais Jean-Philippe Schmitt doit bien être à quelque part. Il travaille à l'impôt, il trouve son adresse. Il le trouve, il est gérant de quilles. Il est gérant d'un salon de quilles. Parce que dans ce monde-là, Johnny Hallyday a participé à un concours de chant, mais il y a eu un accident. Il a manqué de frein sur sa moto. Il s'est jamais rendu, puis c'est effectivement le concours où Hallyday s'est fait connaître dans la vraie histoire. Fait que le but de Luchini à partir de là, je vous gâcherai pas le film, là, c'est de convaincre un gérant de salle de quilles qui peut être le plus grand artiste de France.
Ah,
parce
bon.
Qu'il dit, moi, je viens d'un autre monde où oui, le gars, il a la même voix, il chante bien, mais il gère son salon de quilles puis il est heureux. Puis là, Luchini dit, non, tu gaspilles ton talent. Tu vas capoter sur ce film-là.
Ouais, c'est
mais
super bon.
C'est un peu ça.
Ils ont copié le concept en passant. Hein? En 2019, ils ont copié le concept avec le film Yesterday. Je sais pas si tu l'as vu. Là. C'est la même histoire ou à peu
Yesterday,
près.
Yesterday, c'est Jean-Philippe.
Ouais, c'est clairement la même chose.
Voilà.
C'est les Beatles qui n'existent pas à place de...
Exactement. Okay. Okay. C'est un peu ça. Ouais. Mais tu es en train de nous dire que peut-être, dans les gens qui nous écoutent, il y a peut-être une Céline, il y a peut-être un autre Marc Dupré, il y a peut-être un Johnny, mais qu'ils se sont fait dire par les parents ou par la vie.
Exact.
Il y a des fois que la vie est tough aussi, puis qu'ils se ramassent. J'ai rien contre les gérants de salle de quilles, en passant. Pantoute, c'est un beau métier. Là. Mais c'est juste qu'ils sont là, puis ils pourraient peut-être faire autre chose. Moi, je sais pas si vous êtes déjà posé la question. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'aurais-tu pu... Je sais que joueur de hockey, j'ai rêvé à ça longtemps, mais oublie ça. Là. Ça, c'est correct, ça. Je le sais que j'avais pas le talent, ni le physique, ni tout ça. Bon, mais j'aurais-tu pu faire autre chose? Si j'avais continué en humour, est-ce que j'aurais
peut-être
réussi ou je me serais pété à la gueule? Je sais pas.
Peut-être.
On se demande tout ça à un moment donné, mais là, on parle beaucoup du milieu artistique parce que nous, on trempe là-dedans, mais ça peut être autre chose. Là. Ça
dans
peut
tout.
Être, hey, j'aurais voulu être avocat toute ma vie.
Exact.
Est-ce que j'ai tout exploité mes talents?
Moi, je trouve juste ça plate qu'il y a des gens, parce que il y a une différence entre, mettons, donner des conseils à quelqu'un pour que ses affaires s'améliorent, puis dire, parce que c'est une autre affaire hier qui est sortie dans notre conversation, puis j'ai fait, hey, demain, je vais leur en parler.
Ouais.
C'est le fameux, oublie ça, c'est pas pour toi. T'es qui, toi, pour décider du destin de quelqu'un? Puis briser comme ça, paf, le rêve. Moi, j'ai une de mes amies, là,
ouais.
OK? Hélène, je dirais pas son nom complet, là. Elle dit, à 8 ans, ma mère disait, ça sert à rien de comment, 8 ans! Ça sert à rien de commencer la gymnastique. Il faut commencer plus jeune pour pouvoir vraiment faire de la gymnastique de haut niveau. À 8 ans. Penses-tu vraiment qu'à 8 ans, elle a fait « Ma mère doit être dans le champ? » Ben non, maman a raison.
Mais tu parles de mère et de l'influence des parents. Tu as parlé de Faf, son père qui a toujours dit « Occupe-toi de ton fonds de pension, c'est ça l'important. » Juste à faire un peu de millage sur René Angelil, je l'ai déjà compté, il l'a vécu. Angelil, avec Ginette Reno, s'est ramassé au Johnny Carson Show. L'entrevue est annulée. Ginette Renault pleure, elle appelle sa mère au Québec. La mère à Ginette Renault, il dit, Ginette, t'es née pour un petit pain. Lâche le marché américain, rentre au Québec et contente-toi de ce que t'as. Ça a été la fin de la carrière internationale de Ginette Reno. Des années après, le même Angelil elle arrive avec Céline, qui parle pas trop français, mais on s'en sac, elle prend un cours, elle arrive avec Johnny Carson, elle fait un tabac, et elle devient la plus grande chanteuse au monde. Fait que lui a vécu les deux.
Oui.
Angelil a vraiment vécu, dans ce que tu parles, les deux attitudes. Là. L'attitude de la mère qui dit à Ginette, « Hey, reste au Québec, né pour un petit pain, petit Québécois. » Tu sais, un peu, là, on met des bâtons dans les roues. Puis Céline, elle s'en fout. Il n'y avait aucune barrière. Il n'y avait rien de trop gros pour elle. Puis en way go. Puis regardez ce qu'elle est devenue.
Je trouve ça terrible, moi, de pas se réaliser l'impact qu'on peut avoir auprès, notamment plus des jeunes, de juste envoyer cette espèce de petit venin là d'inquiétude, puis de c'est pas pour toi, puis t'es là, pourquoi? Je veux dire, au pire, si tu vois quelqu'un qui s'enlise dans un chemin qui est très difficile, tu peux lui dire, je pense que c'est tough où tu t'en vas.
Ouais.
C'est pas évident. Mais de là à dire que c'est pour ça qu'hier, moi, ça m'a sauté dans la face. Parce que j'ai vu, écoute-moi, elle dit elle-même dans son poème.
Ouais.
Elle dit, descendant d'esclaves,
élevée
par une mère monoparentale, puis tout à coup, alors je te dis pas que c'est donné à tout le monde, bien sûr,
ben non,
c'est pas mon point.
Ouais.
Mon point, c'est juste de dire qu'à un moment donné, tous et chacun, le fameux, Sylvain, le fameux le prof qui nous a aidés à réaliser quelque chose, on a lu ce prof-là, on l'a tous eu le prof à quelque part qui a fait qu'au lieu d'être poche en maths, on était juste au moins assez pour passer. Moi, j'étais pourri en maths, mais j'ai eu quelques profs qui ont fait qu'au lieu d'avoir 58, j'ai peut-être eu 63. Bon. T'aimes-tu mieux raconter ça ou raconter celui qui t'a dit, lui, il m'a dit, oublie ça, avocat. C'est pas pour toi, là, t'es pas assez studieux.
J'ai eu les deux. Moi, j'ai eu une prof en ATM qui me dit que je ne ferais jamais de radio. Puis j'en ai eu un autre alors que
C'était ton prof? Comment elle peut dire ça?
J'ai eu une prof qui m'a dit ça. Mais j'en ai aussi eu un autre qui, alors que j'étais étudiant en journalisme écrit, m'a envoyé stage radio en disant, je pense que même si t'as pas étudié là-dedans, si t'as les connaissances en journalisme, tu vas t'adapter à la radio, go. Fait que, j'ai eu les deux, là.
Mais je pense qu'on se protège aussi. On se protège, puis on protège beaucoup les jeunes qui ont beaucoup d'espoir par rapport à une carrière pour pas qu'ils soient trop déçus. Puis il y a beaucoup de parents aussi qui le font, mais beaucoup de profs aussi qui voient pas nécessairement un potentiel si grand que ça chez un jeune, puis il se dit, je le fais-tu perdre son temps pendant 2-3 ans puis vivre la plus grande déception de sa vie, ou j'essaie de mettre la réalité telle qu'elle est puis de lui dire la vérité.
Ton point est très bon, mais je pense que ça fait moins mal de se casser la gueule une fois puis de remonter que de se poser la question à 50 ans. Est-ce que j'aurais dû... C'est sa fameuse question. Est-ce que j'aurais dû aller là étudier ça, là, c'est des années et des années de remords puis de stress. Alors que, un échec, là, on en parlait tantôt avec Nathalie, là. Tu sais, tomber dans la vie puis avoir un échec, tu te remontes.
Mais ce questionnement-là.
À 20 ans, who cares?
Ouais. Exact.
Mais ce questionnement-là, vous l'avez pas, vous, des fois? Moi, je l'ai constamment. Constamment dans ma vie, moi, je me dis, est-ce que tel métier que j'aurais aimé pratiquer, je serais plus heureuse là-dedans? J'aurais aimé ça, par exemple, être avocate. Il y a des journées où je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça, travailler dans des garderies avec les enfants. D'autres journées, je me dis, mais semble ce métier-là aussi, j'aurais aimé. Vous posez jamais cette question-là.
Je peux-tu te répondre juste très personnel? Ouais. Ben, moi, je les ai toutes faites.
Les métiers, tu veux dire?
Toutes.
J'ai
été avocat, j'ai joué à Paris. Il n'y a pas un rêve que j'ai pas fait. Sauf que, sais-tu quoi? J'ai payé le prix. J'ai payé le prix parce que il y a aucun domaine de ce que je fais où je suis tombé numéro un. Parce qu'à chaque fois, je disais ça aussi. Ça, je vais embarquer ça, puis tout. Puis, je te dirais qu'autour de l'âge de 45 ans, ça a été fini. J'avais comme tout fait, là. Puis là, après ça, c'était paf, ce que je fais là maintenant. J'étais un gars de communication. Il n'y a plus d'affaires de... Ben, sérieusement, je vais te dire, puis ça amène une autre question, OK? Parce que il y a la philosophie de Pierre-Yves McSween, que mathématiquement, on peut pas être contre, parce que vraiment, c'est comme le gars, il dit, garde, fais ça, puis si ça va donner ça, puis il a entièrement raison. Mais de l'autre côté de ça, il y a un truc en économie, puis arrivez bien au courant, qui s'appelle le coût de renonciation. C'est-à-dire, si je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. C'est que si je dis oui à être blindé de REER, ben, je dis non à des expériences ici maintenant, qui prennent un coût, puis mon budget est pas élastique.
Ouais, tu renonces tout le temps de quoi?
Bon, c'est ça. C'est fait qu'il y a une affaire aussi qu'il faut se poser comme question par rapport à ce qu'Elisabeth dit là. Puis ça, c'est personne peut dire quoi penser, c'est chacun répond. C'est quoi la valeur que t'accordes au souvenir? Est-ce que pour toi, aller en voyage avec tes enfants à Disney World à 10 000 piastres pendant 2 semaines, c'est 10 000 piastres au vidange parce qu'anyway, ça dure 7 jours? Ou c'est des souvenirs qui en valent 100 000? Moi, je peux pas répondre à ça, mais je peux juste te dire que quand tu regardes tes calculs de fonds de pension, là, ça peut pas juste être un acte
mathématique. Moi, je peux répondre un peu. Mais un peu, tu vas comprendre pourquoi on va terminer là-dessus. Parce que quand j'ai jasé avec mon oncle Laurent, quelques jours avant qu'il demande le suicide assisté, on a fait un petit peu le bilan de sa vie ensemble. On a parlé de plein de choses. C'était un appel quand même assez émouvant. Quand on s'est rapproché, c'était adieu. Puis une journée ou 2 jours après. Je peux juste vous dire que mon oncle Laurent, pendant à peu près une demi-heure ou 45 minutes, je me souviens plus, ça a passé tellement vite, a passé son temps à me raconter ses souvenirs et non pas à compter son argent.
T'es sûr qu'il t'a pas dit « Je suis tellement content d'avoir toujours payé mon hydro à temps. » Il t'a pas parlé de tout ça?
Non, on n'a pas parlé. On n'a pas... Non, mais c'est, tu comprends? On a.
Oui, je comprends.
Puis je l'ai même dit, à un moment donné, c'est une des phrases que j'ai dit à mon oncle Laurent. J'ai dit « C'est drôle, hein? » Je me souviens tellement on avait du fun quand on allait chez vous, à quel point il y avait de la nourriture, ça m'a toujours fasciné, à quel point on était bien accueillis, tout ça, de la boisson, plus tard un peu, etc. Mais j'ai aucune idée de la couleur du divan qu'il y avait chez vous. Je me souviens pas du sofa, je me souviens pas de vos marques d'auto, je me souviens pas trop de la maison, mais je me souviens de l'accueil, des bons moments, de la bouffe, de toutes les blagues que vous faisiez parce que c'était quelqu'un de drôle. C'est juste ça qui me reste. C'est juste ça qui te reste à la fin. Quand tu vas être rendu là, tu vas-tu faire comme dans Le Petit Prince, le gars qui est seul sur sa planète puis qui est riche là, puis qui a de l'argent, mais il sait pas en quoi faire, puis il répond au Petit Prince, ben je compte mon argent. Tu sais, Le Petit Prince demande au gars, ça sert à quoi avoir autant d'argent? Ben à la compter.
C'est ça.
Puis là-dessus, regarde, on est pas tout parfait là. Moi, je vais bien plus souvent aujourd'hui à l'âge que je suis là. Je suis financièrement dans ma vie, c'est là où je suis le plus indépendant puis mieux là. Donc il y a pas de stress, mais c'est l'époque de ma vie où je vais le plus se voir mes affaires d'argent. Parce que plus t'en as, plus tu stresses, plus tu comptes, plus tu veux en avoir. Je vous l'avoue, là, je n'ai pas tant que ça, je suis pas si riche que ça. C'est pas mon point. Mon point, c'est que c'est là, dans ma vie, où je suis le plus riche parce que j'avance. Puis quand j'avais 20-25 ans, là, j'allais pas voir mes placements à tous les jours. Mmh. Puis à cette heure, ben, pas à tous les jours, mais ben, pas mal à tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. On compte. Ben, donne quoi? Donne quoi, mais c'est... Fait qu'on n'est pas parfait, mais au moins...
Ah, il n'y a pas de formule parfaite entre les deux. Je fais juste, il faut...
Pis c'est je m'en rends compte, puis je m'amuse aussi, puis je voyage, puis regarde, justement, je suis pas trop là-dedans, mais c'est ça.
Ben, c'est un équilibre, mais c'est certainement pas tout un tout l'autre. C'est certainement pas moi, je flobe au jour le jour.
Non.
C'est certainement pas juste, ah, mon beau fonds de pension, 30 ans plates qui s'en viennent, voyons.
Faut trouver l'équilibre, et voilà. Merci Marc, merci beaucoup. 16h25226, si vous avez de quoi à rajouter. Je sais pas si je suis le seul, j'aime toujours ça quand vous écrivez. Hier, j'ai parlé des livres, c'était fascinant. Comment plein de gens m'ont écrit pour dire qu'ils étaient pareils comme moi. Des fois, quand tu parles de quelque chose, là, t'as de la réaction. Hey, moi aussi, je suis le même. Même des collègues sont venus me voir aujourd'hui. On est pareil. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite récemment, ça. En relisant Le Petit Prince, parce que pour ceux qui l'ont lu, il y a un épisode avec un riche qui passe son temps à juste compter. J'ai comme fait, hey, quand j'en avais moins, je n'allais pas voir ça tout bout de champ. Là, plus t'en as, plus tu pitonnes. Moi, quand ça baisse un petit peu, tu commences à t'inquiéter. Puis là, quand ça monte, il faut que ça monte. Mm. Puis, il y a une autre spirale également, on dévie un peu, mais qui peut être dangereuse. C'est les plateaux. Mettons que tu as 25 000 dans ton REER. Ah, 25, c'est comme un... Après ça, l'autre plateau, ça va être 50.
Ouais.
Après ça, l'autre, ça va être 75 ou, mettons, 100 000. Ouais. Ça te rendu à un certain âge. Tu n'as pas ça jeune, puis j'avais pas ça jeune. Mais en avançant, là, à un moment donné, si tu penses ta retraite, il faut que tu ailles un peu sous à 65 ans, là, surtout si tu n'as pas de fonds de pension. Moi, j'en ai pas comme tel. Tu n'as pas des REER. Mais à chaque fois, on dirait que tu veux le plateau d'après. Pourquoi?
Constamment.
Pourquoi?
C'est le même avec le salaire. C'est le même avec n'importe quoi dans la vie.
Mm-hmm. On veut le next. Toujours plus. On veut le next. C'est mal fait. C'est un piège.